Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gâches-tu ?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite série du soccer.
Et pour le genre du direct, on continue pour le mondial. On va respirer un peu, mais on y va direct. La Coupe du Monde a commencé, messieurs, le 14 juin 2018 en Russie. Match d'ouverture Russie 5-0 contre l'Arabie Saoudite. Le match le moins intéressant de ce mondial en termes d'histoire. Assez intéressant en termes d'histoire, mais je pense qu'il y a deux, trois thèmes qui m'intéressent. Vous pouvez aussi en ramener d'autres, mais pas trop, sinon on est là jusqu'à minuit, là, mais
c'est... Trois thèmes sur Arabie Saoudite, Russie?
Non, trois thèmes en général, excusez-moi.
Il y avait le chanteur Robbie Williams, il y avait les deux qui se sont négociés le prix de pétrole live à la télé.
Et le géant Goldorak qui a marqué un but.
Voilà, next match. C'est bien de voir une Russie en réussite aussi. Ça, moi, c'était ma première crainte. C'est de voir un pays hôte, vraiment un peu la catastrophe annoncée. Puis là, bon. C'est malheureux pour l'Arabie, mais le 5-0, ça au moins ça assure que tout le pays est derrière cette compétition-là. La Russie est pas la sélection ridicule qu'on pensait peut-être. Puis ils sont là, ils sont dans un groupe facile, puis ils vont probablement aller au moins jusqu'en 8e. Là. C'est bien pour tout le monde, ça.
Attention à l'Égypte, attention à l'Uruguay.
Ah oh oui, ça c'est sûr.
C'est pas encore fait. Je pense qu'ils battent l'Arabie Saoudite. Mais moi je suis content qu'ils aient gagné parce que ça lance bien le mondial, que le pays hôte remporte un match et je pense que la fête est partie des Russes, comme que ce soit l'accueil, le service à la clientèle, l'hospitalité. Donc, c'est bien. Je suis content qu'ils aient gagné et de manière convaincante. Maintenant, les amener en 8e, on verra.
Mais c'est le groupe Apple, un des moins stylés, même si j'aime beaucoup l'Égypte. Mais le premier match qui nous intéresse le plus, le premier débat, les débats qui vont sortir de ce match, c'est le gros match nul 3-3 entre l'Espagne et le Portugal, le Classico Ibérico. Donc, un gros match, triplé.
J'aime beaucoup ce nom.
Attends, je fais un dab. Hop, voilà. Le Classico Ibérico, donc, un triplé de Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Un doublé de Diego Costa avec un... C'est qui a marqué l'autre but? Nacho sur une belle reprise. Une belle reprise de volée. Gros but. En allemand, je pensais que ce but allait, c'était le but de la victoire, mais non, Ronaldo avait, Cristiano avait d'autres choses à dire. Donc, le match, on peut pas, le jeu, moi, ça m'intéresse moins le jeu parce qu'on a vu le match, c'est correct. Vous avez lu et écrit les analyses qui ont été faites partout sur le web sur ça. Mais moi, l'histoire qui m'intéresse le plus, et l'histoire que on va essayer de l'appliquer à l'Argentine ou au Brésil, c'est vraiment, il y a trois stars dans ce mondial. Plus Salah. Cristiano Ronaldo. Messi, Neymar et Tassala, mais qui est blessé, donc on en parle un peu moins, puis il n'a pas encore joué.
Non, attends, Salah, il n'est pas du tout à ce statut-là.
Non, mais je parle en termes de, j'ai dit plus Salah, c'est Salah, il est chaud, il a marqué 40 buts, on l'attendait. Avant sa blessure, je pense qu'on l'attendait.
Le timing est parfait pour Salah cette saison,
c'est plus par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit le top 3, plus Salah, parce qu'il est chaud. Ça peut être Cavani, s'il a marqué 70 buts. T'sais, je parle vraiment d'un gars chaud qui était vraiment intouchable en IPL et en Ligue des Champions. Et par rapport à moi, ce que j'en ai parlé un peu à Nilton avant, c'est que Cristiano Ronaldo vraiment montre comment il est vraiment le leader, le symbole, l'ambassadeur et l'emblème de la Seleção du Portugal de façon permanente. On le savait déjà, mais là, il le réaffirme. Et c'est la première fois qu'il fait dans un mondial. Parce qu'à chaque mondial auquel il a participé, il était sauf 2006 où il était pas mauvais, il était plus jeune, mais 2010-2014, il était assez moyen parce qu'il était blessé, je pense surtout. Et ouais. Le Portugal n'allait pas très bien. Donc, c'est vraiment Dos Santos qui est venu et qui a vraiment remis en shape cette sélection. Tu me dis, Nilton, si je me trompe par rapport à ça. Et l'histoire de Cristiano Ronaldo, ce qui me fait dire, c'est que déjà, ça nullifie pour la énième fois tous les débats Messi-Ronaldo parce que tu
non,
peux.
Pas du tout.
Laisse-moi finir. Justement, la vie, c'est correct. Il nullifie ce débat dans le sens. Tu peux faire ce débat, tu as le choix, mais pour moi, ces deux joueurs, c'est des GOATs. Ils font partie des greats of all time. Pelé, Maradona, Platini, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo et Messi. Tu peux faire ton propre ranking, mais ce débat incessant, c'est plus une question de goût. Et c'est plus une question de goût qu'une question de compétence et de qualité de ces joueurs-là. Les gens préfèrent Messi. Messi, c'est peut-être un joueur meilleur que Ronaldo en termes de qualité intrinsèque, valeur absolue. Mais Ronaldo, ce qu'il fait à chaque fois, pour le Portugal, il l'a fait avec le Real, mais le contexte est différent. Mais pour la sélection du Portugal, qui a quand même des très bons joueurs, mais le collectif n'est loin d'être aussi poli comme d'autres sélections qui ont des très bons joueurs. Moi, je trouve que Ronaldo, c'est vraiment, il réaffirme son statut international de vraiment greatest of all time. Parmi d'autres, c'est pas le seul. Et Messi, je prouve qu'il a un peu gagné il a mérité son statut confirmé de GOAT. Il était déjà en 2014, qu'il a bien joué pour l'Argentine, il les a menés en finale. Donc, pour moi, c'était important. Mais Ronaldo, ça me fait dire, OK, tous ces débats-là, les gens qui appellent Ronaldo parce qu'il y a trop de gel, il est trop musclé, ils n'aiment pas comment il dribble. Au fait, c'est une question de goût. Ça n'a aucun rapport avec le football, au fait. Et c'est plus, moi, ce que je pense, c'est que je suis content pour lui. Il réaffirme, puis il m'a fait rappeler, ah oui, toi, t'es vraiment bon. T'es au-dessus de tout le monde. Parmi d'autres dans les nuages, dans la stratosphère du football. Et pour moi, je trouve ça incroyable. Désolé pour mon monologue. Sorry. J'étais un peu chaud.
Vas-y, Seb.
T'as pas fait un mot sur Neymar?
Non, mais là, je fais. Oui, Neymar, mais là, je suis un peu rentré dans Portugal-Espagne. Puis le débat, ça n'a jamais été Neymar-Ronaldo. C'était Ronaldo-Messi. Neymar est venu après. On parlera de Neymar juste après. Mais je voulais aider Messi. Je voulais d'abord parler de Ronaldo dans ce sens-là.
Je t'ai interrompu en disant lorsque t'as dit que ça nullifie le débat. Non, pas du tout en fait. La Coupe du Monde est encore jeune. Ça aurait dû être le nom de podcast qu'on aurait dû faire durant la compétition. Puis ce débat-là en fait, il va se poursuivre, mais il va arriver à une conclusion partielle à la fin de la compétition uniquement. C'est tout ce qui se passe en ce moment là, même est irrelevant. À la fin, si le Portugal se fait sortir en huitième ou en quart, même en demi, regarde, Messi a perdu en finale, c'est pas suffisant. À la fin,
pour moi, c'est suffisant. Pour Messi, c'est suffisant. C'est suffisant, la finale. Il a mené son équipe, même s'il perd en demi-finale. Messi, il a mené l'Argentine vraiment comme un leader en 2014. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est bon. T'es un greatest of all time. C'est pas tout le monde qui gagne le mondial, puis voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Désolé.
Oui, mais comme je t'avais interrompu, je t'ai laissé continuer par courtoisie, même si effectivement c'est pas du tout fini. Au contraire, le fait qu'il n'ait pas gagné a remis de l'eau dans le moulin de ce débat. Et qu'est-ce qui termine ce débat? C'est la victoire en Coupe du Monde. Et ça, il y en a juste un des trois qui va l'emporter. Ils ont des narratives tous différentes et intéressantes. Je pense que Ronaldo est dans une bonne narrative depuis 2 ans. Voire 3, parce qu'il porte le Portugal dans les qualifications vers l'Euro 2016. Il gagne l'Euro, il fait encore des énormes qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Donc il est dans une très très bonne dynamique à ce niveau-là. Donc il a même pris un peu d'avance justement parce que lorsqu'on met son rôle au Portugal versus celui de Messi, les résultats lui donnent raison. Pourtant, Messi, dans la campagne de qualification, il est héroïque, il les mène en finale, mais il ne gagne pas. Et ça fait un titre continental pour l'un et pas pour l'autre. Donc ce débat-là, malgré le triplé, malgré les 10 tirs de Messi contre l'Islande, malgré le fait que la Suisse a fait 19 fautes dont 10 sur Neymar, la fin de ces débats-là, ce sera finalement le résultat final qui va le dicter. Et encore, ce sera pas une fin, ce sera juste une parenthèse, parce que ça reprendra de plus belle un peu plus tard quand on repartira dans les clubs, etc. Mais c'est pour ça que vraiment je t'arrête sur ce point-ci. Et tout ce que tu dis est juste, genre, et on n'est pas même pas là, il y a personne qui va dire le contraire, à part des haters, comme qui peut pas dire que c'est pas tous les greatest of all time. On sait tous que ce sont des joueurs extraordinaires. Mais aujourd'hui, ils sont en plein dans leur légende. Et c'est pas au premier match de la Coupe du Monde que ça va s'arrêter. Ronaldo, il rate un truc contre le Maroc. Ben, ça va être pris dans le débat. Messi, il marque deux buts contre la Croatie. Ça va re-rentrer dans le débat. C'est un débat qui s'écrit en ce moment même. Et c'est fascinant. Et ça enlève pas que son triplé était contre l'Espagne et est un très grand accomplissement. Mais c'est encore trop jeune pour arriver à quelques conclusions qu'il soit. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Nilton.
Il y a plusieurs endroits que je voudrais aller avec cette conversation, mais je vais utiliser tout de suite un point que t'as pas, un des derniers points que t'as soulevé. Ce qui est incroyable avec Ronaldo dans la sélection portugaise présentement, c'est que, tu sais, oui, c'est juste un match. Tu sais, on s'entend, on peut pas s'enflammer puis décider la carrière d'un joueur, tu sais, décider si lui c'est une légende, lui c'est d'autres choses. Bon, mais il y a des matchs clés dans une carrière. Et Ronaldo, dernièrement, quand il était en forme, là, parce qu'au dernier mondial, oui, il y avait un pépin avec un genou, puis on l'a même vu dans le documentaire quand il parlait avec sa mère qui était inquiète, puis lui il disait, tu sais, je suis blessé, mais t'inquiète pas, ainsi de suite. Quand il est au maximum de sa force, dans les quatre dernières années avec le Portugal, et quand le Portugal vivait un match clé où il avait besoin de quelqu'un, c'est lui qui réussit ça. Lors du dernier Euro, le dernier match contre la Hongrie, quand ils avaient besoin d'une qualification, quand ils se faisaient remonter au score, c'est Ronaldo qui marquait ces buts-là, les buts importants. Lors de la qualification contre la Suède, où il y a eu un vrai match-up d'All-Star planétaire, c'était Ronaldo contre Zlatan. C'est Ronaldo qui a marqué les trois buts contre Zlatan 2. Et le match de vendredi, on s'entend que c'était la tête d'affiche des premiers matchs de groupe. C'est ce qui va déterminer un peu le mental de la sélection portugaise. Tout le monde les voyait perdants. Et Ronaldo, on l'a vu dans ce match-là, un Ronaldo qu'on voit pas. On s'en est parlé un peu, Sofiane, avant oui. L'enregistrement. On voit un Ronaldo totalement différent du Real Madrid. C'est comme si... C'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais c'est juste pour bien comprendre. C'est comme s'il s'ennuyait au Real Madrid. T'sais, on s'entend qu'au Real Madrid, il peut pas s'ennuyer totalement. Il est en train de gagner trois Ligues des Champions, mais le challenge est totalement différent. T'sais, il y a déjà en partant Zidane qui est là, qui occupe toute la place. Il y a tous les autres joueurs autour de lui. Si lui connaît un mauvais match, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont réussir, soit sur le terrain, soit sur le banc. On l'a vu en la finale de Ligue des Champions. C'était pas son match, on l'a vu extrêmement frustré. Bale est venu sauver, il est venu prendre la tête d'affiche. En fin de match, le match était réglé, il était frustré parce qu'il n'a pas obtenu une chance de but avec quelqu'un qui était sur le terrain. Ce genre de comportement-là qu'on reproche à Ronaldo depuis tant d'années, on le voit presque plus avec la sélection. C'est comme s'il y avait une espèce de sérénité qui a acté. Il a compris son rôle. Il a compris son rôle avec la sélection.
Je pense qu'il probablement d'une mission. Il a vraiment investi d'une mission lorsqu'il est avec la sélection. C'est très beau à voir. C'est un peu dommage que c'est pas ce Ronaldo qu'on voit tout le temps avec Madrid, ouais. mais en tout cas après c'est la sélection, c'est toujours très différent et, ouais. Et je suis d'accord. On a deux joueurs, on a deux attitudes différentes, mais lui il se sent quelque chose pour l'histoire, pour le football portugais, pour beaucoup de choses, pour des gens. Alors qu'à Madrid il est dans sa guéguerre. Ouais. But après but, stat contre stat, il l'est. Genre comme je pense que t'as répondu à un tweet sur le fait que on se demandait si la performance de Messi jouait dans la tête de Ronaldo. Ben en sélection non, mais par contre c'est pas vrai. Au Real Madrid oui, il y a des réponses directes, ça se voit. S'il a marqué deux buts, lui il faut absolument qu'il en marque deux. Il faut qu'il ait pénalty, il faut qu'il ait ci. Ça se voit en fonction de ceux qui jouent samedi versus ceux qui jouent dimanche. Il y a effectivement il joue dans la tête des
autres. Parce que là ils sont en compétition directe, ils sont là pour la première place en
sélection. Ils ont un rendez-vous avec leur propre histoire, avec leur propre nation, leur peuple. Donc, ils n'ont pas besoin de ces motifs, d'une motivation externe avec le concurrent direct. Donc, je te rejoins. Mais oui, son attitude est très différente. Une sérénité, une énergie, beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est très beau. Il y a des discours dans les vestiaires parfois qu'on voit aussi.
Il sort dans les médias portugais qu'on voit pas. Là. Une image, une vidéo que j'ai vue lors de l'Euro 2016, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. répéter brièvement, c'est lors de la séance de pénalité où, où Joao Moutinho se cachait là, dans, sur le banc parce qu'il voulait absolument pas tirer ce tir de pénalité-là. Puis il était tellement effrayé par la pression et la conséquence d'un pénalité raté. Et on le voit, là, Ronaldo est allé le chercher, là, mais de façon positive là, et pas comme un guerrier, où c'est-à-dire non, tu viens ici, tu vas réussir.
Ouais. Il l'a pas insulté. Il l'a pas insulté. Ouais.
Il l'a dit, il disait, Joan, si tu rates, tu rates. C'est ça le foot, on s'en fout. Toi, t'es un joueur qui réussit ses pénalités. On est là présentement, tu t'en vas là, tu tires. Si on le rate, on le rate, on s'en fout complètement. On voit une attitude qu'on connaît pas de la personnalité publique. La personnalité de Ronaldo publiquement et ceux qui le détestent avec leur raison et c'est légitime. C'est le gars qui est une espèce de marque de commerce, là. Mais à la sélection, il est totalement différent, même dans son comportement. Il vient chercher des ballons au centre. Il est pas juste là sur le côté gauche à attendre qu'on lui donne le ballon. Il a fait la passe qu'il fait à Guedes là, qui choque complètement devant cette pression-là. Là. Ouais. Et il y a 6 ans de ça, là, jamais il donne ce ballon-là. Il la redonne, jamais dans 100 ans qu'il donne ce ballon.
Il aurait fait ça au coach. Lui là, il change là. Il change tout de suite. Non, c'est vrai. Et pour, je vais te poser une question, Nathan, par rapport à, j'assume que Messi, j'ai pas d'Argentin dans mon salon, là, pour poser la question, mais je présume que Messi est patriotique. Je vais assumer ça, même s'il était loin de l'Argentine très jeune, parce qu'il était au Barça à un jeune âge. Ça a l'air d'être un joueur assez patriotique. Est-ce que Ronaldo, est-ce qu'il indique qu'il est patriotique de façon officielle, dont il en parle souvent, ou c'est juste par rapport, je viens à la CLSA, ou je joue, je marque des buts, moi, j'embrasse mon emblème, puis c'est comme ça que je montre mon patriotisme.
Je vais parler en mon nom et non au nom de tous les Portugais, mais bon.
C'est dommage.
Mais souvent, ce qu'on voit, là, très souvent, quand un Portugais réussit au niveau mondial, il devient ce que les gens perçoivent comme de l'arrogance. Hein. Mourinho est arrogant, Ronaldo est arrogant, mais culturellement, le Portugal peut ressembler beaucoup au Québec, c'est-à-dire, c'est tout l'esprit religieux où t'es né pour un petit pain, puis t'assumes ta place et c'est bien ici. Mais t'as tout le temps des têtes fortes qui veulent prouver que le Portugal est une nation importante, surtout avec le voisin espagnol, surtout sa place en Europe. Et Ronaldo, c'est le même principe. Il est en train de vouloir prouver qu'il n'est pas seulement le meilleur. Il veut pas être le meilleur Portugais. Il veut être le meilleur de tous les temps.
C'est vrai.
Il s'y prend aussi pour l'être le meilleur de tous les temps. Il déplace de l'heure parce que c'est sa façon à lui de réussir. Tu sais, s'il n'y avait pas cette volonté-là de prouver à tout le monde que c'est le meilleur, jamais il serait rendu là. Tu sais, on regarde un gars comme Quaresma à côté de lui, il est nettement meilleur. Là. Au niveau de talent brut, le Quaresma était nettement meilleur à un plus jeune âge. Mais Ronaldo, c'était l'attitude. Là. C'est dans sa tête. Il était investi d'une mission première, oui, personnelle. Mais une fois qu'il a vu qu'il y avait la possibilité d'aller plus loin, il s'est investi d'une mission national, autant que Mourinho s'est investi d'une mission personnelle au début avec Porto, puis quand il a progressé jusqu'au Real Madrid et à Chelsea, il était là pour représenter les Portugais, pour prouver à tout le monde que cette nation était capable d'aussi bien que tous les autres.
Voilà. Surtout qu'il y a un complexe avec l'Espagne, historiquement, ça c'est clair au niveau culturel, là, ça j'ai beaucoup de choses dessus, là, avec Mourinho quand il était au Madrid, etc., et Ronaldo, ils n'ont jamais été. Je pense qu'il y a un peu de hate Espagne-Portugal, mais je ne vais pas rentrer dans le sociopolitique là ce soir. Mais c'est super intéressant. Du côté de bon, on va parler de Messi un peu. L'Argentine un partout contre l'Islande.
Parler de l'Espagne ? Non ?
Bon, ok, on va parler de l'Espagne. Parfait. C'est ce que j'ai dit en termes d'analyse. On n'est pas obligé de rentrer dans ce que ça a été fait avant, mais ok, parfait.
Ok, très bien. Non, ok, je comprends ton point. Donc, comme tu peux parler de certaines histoires. Ok, très bien. Vas-y, donc, allons-y comme ça. J'aime l'idée. Vas-y,
c'est bon. Parce que l'Espagne, c'est super. C'est une belle équipe, là, mais bon. Ils ont trouvé un attaquant, enfin, de pointe. Par rapport à l'histoire, maintenant, par rapport à Messi. Bon, Messi, bon, je viens de dire 2014, pour moi, il a prouvé que c'est bon. C'est pas un joueur de club. Même que je savais quand l'Argentine jouait bien, là, mais c'est en termes de performance à la Coupe du Monde et un peu à la Copa América sur certains matchs clés.
Je pense qu'il marque pas de but en phase qualificative éliminatoire, non?
C'est le seul qui marque des buts, je pense.
Ouais, je vais aller vérifier.
Non, Est-ce que tu peux regarder ça, Nilton? J'ai pas vraiment de souvenir de but durant les
des qualifs pour la coupe.
Non, pas les qualifs, les huitièmes, quart, demi et finale. Okay, en 2014.
Il n'a pas marqué. Di Maria, Higuain. Ouais, je me rappelle, oui, c'est ça. Mais oui, en termes de Messi, il est dans le spectre de Maradona.
C'est ça. Je veux dire, ça, c'est pour ça que pour eux, malheureusement, seule la victoire est belle. Parce que tant qu'il n'y a pas la victoire, ben, on commence à creuser. Je veux dire, Ronaldo, il fait la même compétition, mais il gagne pas, le Portugal ne gagne pas l'Euro. La discussion est complètement différente. Et Messi, c'est pareil. Messi, il va en finale de deux Copas et de la Coupe du Monde. Il va juste en finale. À leur niveau de jeu, c'est pas suffisant. Tu sais, Cruyff, il fait une finale de Coupe du Monde. Hein. Genre, comme il la gagne, c'est un gars qui a gagné 3 Ligue des Champions, qui a révolutionné le jeu de l'Ajax, du Barça. C'est un joueur énorme. Avec une Coupe du Monde devant Beckenbauer, ben, on en parlerait différemment.
C'est pour ça
qu'ils sont.
Mais Cruyff reste une légende.
Les gens, justement, comme soit t'es dans, si t'es pas dans le monde du foot, Cruyff, tu sais pas à quel point c'est un jeu. Tantôt, genre comme de manière naturelle, on va citer des joueurs, mais qui ont souvent gagné la compétition. Cruyff, il devrait quasiment être dans le top 3 de tout le monde, mais il l'est pas. Et la Coupe du Monde, une seule Coupe du Monde, et juste en finale, ça joue dans la tête des gens. C'est pour ça que je pense que pour eux, c'est un débat qui est continuel. Il faut savourer son triplé, il faut savourer tous leurs matchs. Mais dans le cadre du débat, parce que genre comme t'as voulu parler du débat à la base, genre, ça finira, ça peut pas finir, faut attendre le résultat.
Oui, mais ok, parfait. Mais je disais par rapport à ça parce que surtout ce que les trois, incluant Neymar en 2014, ben non, Ronaldo était pas très bon en 2014, mais Neymar il a prouvé que c'était un top player en Coupe du Monde et en club. Messi, il a prouvé que c'était un top player en Coupe du Monde. Ils ont pas gagné, mais ils ont mis en finale. Comme Cruyff, voilà, à un moment il y a juste un gagnant, quoi. Tu peux pas avoir deux. Et puis c'est pas grave. Hein. George Best n'a jamais joué à la Coupe du Monde. Puis pour moi c'est un top joueur. C'est une légende. Puis c'est par rapport à ces débats-là qu'il faut prendre en compte. Mais par rapport à Messi, c'est clair qu'il y a tout le temps un gâchis parce que la sélection est mal entraînée depuis, je pense, depuis 2006. Pour moi, Pekerman, c'était le seul dernier bon coach, je pense. Peut-être celui de 2014, j'oublie son nom, mais ils ont un problème de sélection, ils ont un problème de politique, ils ont un problème de coaching là pour une sélection. Avec ou sans Messi, tu sais, à un moment, il faut que tu te débrouilles. T'sais, ego pas ego, Ronaldo ça marche bien, Neymar ça marche bien. Donc il y a un problème en termes de l'Argentine par rapport à ça. Et ça c'est un gros cachet. C'est pas la faute à Messi, c'est pas seulement la faute à Messi, il est peut-être en partie à blâmer sur ça, mais c'est important de ne jamais oublier ça, c'est que c'est un collectif et puis l'Argentine ce qu'ils ont, on se dit mais quel gâchis. Tellement un gâchis qu'on les met même pas comme favoris. On les met comme les favoris underdog alors que c'est pas vrai, ils ont des gros joueurs, mais avec les années on se dit c'est bon les gars, on va les oublier. Comme l'Espagne on les a oubliés dans les années 90, puis soudainement ils arrivent, ils gagnent. Donc voilà, ils nous laissent un peu indifférents. Puis quand on les voit jouer, ah, ils sont des bons joueurs, mais ça fait rien. Et c'est un gâchis par rapport à ça. Je sais pas ce que t'en penses, Nilton et Sid là, mais
il faut pas non plus oublier puis la performance de l'Islande là, dans ce match-là. Là, c'est compliqué de jouer contre eux là. Quand l'Islande réussit pendant de longues minutes à frustrer l'adversaire, ça devient finalement, la frustration de l'équipe adverse, elle est très, très, très grande. Puis on l'a vu, hein, on l'a vu avec Ronaldo il y a 2 ans. Tu sais, il y a eu des propos un peu déplacés sur les Islandais parce que eux, ils n'ont aucun respect. Là. Que ça soit Ronaldo, que ça soit Messi, que ça soit les Pays-Baltes, ils vont jouer de la même façon. Ces 11 joueurs-là sur le terrain, ils peuvent être totalement frustrants. Tu sais, oui, Messi a touché, c'est celui qui contrôlait le match du côté de l'Argentine. Il a tiré, il a peut-être même trop tiré. Tu sais. Oui, tranquillement, pas vite, ça se met à jouer dans la tête de Messi. Messi, il veut prendre en charge cette équipe. Il veut être l'élément qui va décider l'issue du match. Mais tu sais, ce que l'Islande a fait contre l'Argentine, tu sais, j'ai vraiment envie de mettre un gros marqueur là sur cette perfo là. Moi, ce qui me dérange un peu, tu sais, on a vu la statistique où Messi au niveau des tirs de pénal, c'est pas tout à fait là. S'il y avait un entraîneur, comme tu as dit tantôt, s'il y avait un entraîneur qui était beaucoup plus
imposant,
solide, ouais, imposant, ouais, c'est ça. Ça serait réglé là. Ça serait pas Messi qui tirait ses tirs de pénal là, parce que clairement, il y a un blocage mental dans la sélection. Mais l'Argentine a pas mal joué. J'ai encore confiance pour le reste. Mais le gros challenge de Messi, c'est quand il y a un enjeu psychologique, quand ça va pas bien. C'est marquer le deuxième but, ça va, mais marquer le but qu'une équipe a besoin d'aller chercher.
Non, attends, faut pas généraliser là, parce que je suis pas d'accord. Ce but-là, il est tout à fait capable de le marquer. Puis je sais qu'ils sont pas payés en sélection, mais quel que soit le coach, ce serait compliqué, genre, comme de dire à n'importe quel autre joueur, et qui serait pas Messi d'aller tirer penalty. Et je sais, il est 4 ratés sur les 7 derniers tentatives. Oui, mais c'est lui qui porte le poids de l'équipe sur les épaules. C'est lui, c'est pas, peut-être qu'un autre tire très bien les pénaltys, là. Otamendi, peut-être qu'il tire mieux que Messi, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Personne comprendrait. Donc, c'est à lui de le marquer et c'est aussi à lui de le rater. À un moment donné, on peut pas avoir le beurre et la langue du beurre. C'est pas les autres qui font les couvertures de magazines, qui sont les têtes de proue, de tout. Donc, mais oui, mentalement, il s'écroule. Il en a raté des très importants, et celui de la finale de la Copa aussi, pour moi, est très 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 révélateur de comment ça lui joue dans la tête, cette pression. Mais bon,
c'est un bon point.
On peut pas.
Non, c'est vrai. Messi, ça serait un sujet intéressant d'un livre de psychologie sportive là, parce que autant qu'il peut rendre très haut. On met tellement d'attente par rapport à la sélection nationale qu'on se dit, en fait, il est nul, quoi, l'argent, alors que c'est pas vrai, mais quand on fait des micro-analyses, on se dit, il y a ça qui est pas bon, ça est pas bon, mais c'est pas facile, mais l'histoire de son football, de sa carrière en ce moment, c'est un GOAT, mais c'est pas facile. Bon, pour finir cette émission spéciale Coupe du Monde, on va aller sur Neymar maintenant pour conclure. Je commence en une phrase, puis vous pouvez réagir. Pour moi, Neymar, la seule chose qu'il a prouvé, c'est de mener le Brésil au sac final. Le Brésil, son seul objectif, c'est gagner la Coupe ou ne pas gagner la Coupe. En 2014, il a prouvé qu'il était le leader de cette sélection et un des meilleurs du monde. 2018, c'est pour les ramener à la prochaine étape avant que le Colombien lui brise le dos en quart de finale. Donc, c'est évidemment ici pour finir pour continuer ce qu'il a commencé en 2014.
Vas-y, Seb.
Oui, mais comme Messi, comme Ronaldo, c'est la même chose. Il faut qu'ils aillent au bout. Puis Neymar, il a la chance de pouvoir commencer à prendre le trône s'il va jusqu'au bout avec le Brésil, qui est une très belle équipe. J'aime beaucoup cette équipe. Je pense que un peu comme on doit donner crédit à l'Islande, on doit donner aussi crédit au Mexique, on doit aussi donner crédit à la Suisse. En face, il y a des nations qui se sont organisées avec leurs moyens, qui ont été extrêmement solides. Ils ont été très courageux. Certaines ont fait preuve d'opportunisme et bien aidés par l'arbitrage. Donc ce sera pas facile pour les entre guillemets grandes nations. Puis Neymar, voilà, il a rendez-vous avec l'histoire comme les deux autres.
Hein. Ouais, c'est sûr qu'un Neymar là, c'est un peu compliqué parce que il y a sa forme là, sa forme récente là, il est arrêté depuis plusieurs semaines. Mais tu sais, sa chance, c'est autour de lui, il y a des génies du ballon autour de lui. Donc tu sais, je veux dire, le poids. C'est incomparable avec Ronaldo, puis dans une mesure un peu moindre avec Messi aussi. Là. T'sais, Messi, s'il réussit pas, on peut pas seulement blâmer Messi. Là. Il y avait d'autres joueurs autour de lui. Le Brésil, il y a beaucoup d'options. Il y a des options sur le banc aussi. Autour, on a vu là, le but fantastique là, de Coutinho. N'importe qui peut sortir. Même Casemiro pourrait sortir un coup franc de la... Mais moi, ce qui me fait peur de Neymar, c'est vraiment son attitude sur le terrain. Quand ça va pas bien, on dirait que ça amène vraiment un gros négatif dans l'équipe. Là. Il veut être un leader. Je ne sais pas s'il est capable d'être un leader positif pour cette sélection-là. Tu sais, c'est facile d'être un leader quand tu gagnes 1-0, 2-0, puis qu'on fait la danse sur le terrain. Tu sais, l'enjeu de pousser une équipe en difficulté vers la réussite, Neymar, il va falloir qu'il le démontre encore. Tu sais, il a voulu sortir de l'ombre de Messi pour avoir sa propre étoile. Là. À Paris, c'est facile d'être tout étoilé semaine après semaine. Là, à la Coupe du Monde, il va falloir que quand c'est compliqué pour le Brésil, que lui, il prenne les choses en main puis de façon positive là, pour ses collègues puis qu'il tourne autour de lui parce que des options autour de lui, il y en a de très 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 belles. Il faut pas qu'il nuise au club. Il faut qu'il soit là comme un parmi tant d'autres. Là.
Non, c'est vrai. C'est un très bon pas pour finir ça, Nilton. Et puis, on a parlé des trois, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Neymar. C'est trois chemins différents, trois styles différents, trois sélections différentes en termes de tout, quoi. En termes de jeu, en termes d'histoire, de philosophie, de plein de choses et d'attentes. Et puis, ben, peut-être on va avoir les trois dans le dernier carré. On sait pas. J'ai pas vu le parcours, les branches du Coupe mondiale, parce que je sais pas si c'est possible. Mais c'est encore trop tôt, là. On est même pas fini la première journée des groupes. Mais je trouve ça être incroyable comme déjà un mondial qui s'annonce bien, qui s'annonce intéressant. Il n'y a plus de petites nations. Ce concept, c'est fini. Là. C'est fini depuis trois mondiaux minimum. Là. Mais il faut que les médias fassent un peu de clickbait et de débat. Mais je trouve que c'est bien. C'est un mondial qui commence bien. Je suis un peu triste pour les sélections africaines en ce moment. Et j'attends de pied ferme la Tunisie et le Sénégal. Là, pour,
Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est quand les grosses nations, tu sais, quand on voit la difficulté que la France a eue, l'Allemagne qui est accrochée solidement par le Mexique, tu sais, c'est assez rare qu'on a des observateurs, des journalistes qui osent dire, tu sais, les gens préfèrent suivre le consensuel, là, c'est-à-dire ouais. Bon, les favoris, c'est le Brésil, c'est l'Allemagne, la France est là toujours comme toujours, ainsi l'Espagne, ainsi de suite. Tu sais, c'est difficile de avant tout le monde de dire, ben, tu sais-tu quoi, l'Allemagne, là, oui, c'est 23 bons joueurs, mais c'est 23 joueurs. Il n'y a personne qui est leader de cette équipe-là. Je vois pas qui pourrait prendre ça en charge. Tu sais, c'est facile de le dire après. C'est compliqué de le dire avant puis d'avoir l'air fou si ça fonctionne pas. Mais quand on voit les matchs, hein, quand on connaît ces joueurs-là qui sont dans des championnats, qui s'affrontent de semaine après semaine, c'est pas si fou que ça de voir de voir l'Australie faire quand même une grosse figure contre les Français. T'sais. C'est pas fou de voir le Mexique oser jouer au même niveau avec le ballon, dire non, le ballon, nous, on va pas rester derrière puis on va pas contre-attaquer. Nous, on a confiance en nos éléments offensifs puis on va vous provoquer. T'sais, c'est pas fou de voir la Suisse pour être là puis être efficace contre le Brésil, parce que de toute façon, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui se sont déjà vus dans des mondiales plus jeunes. Là. Tu sais, on a eu des conversations aussi où ils parlaient de Neymar quand ils étaient dans le U20, puis que j'ai pas peur de lui, je l'ai arrêté quand j'étais U20, je peux l'arrêter maintenant, je le vois chaque semaine. Tu sais,
ils ont pas arrêté grand-chose, hein. Je veux dire, ils l'ont surtout bien connu. Hein. Après, je vois ce que tu veux dire. Et puis déjà, moi, j'aime pas l'expression petite équipe, surtout appliquée à des équipes comme le Mexique ou la Suisse. Je trouve ça complètement ridicule. Ce sont pas des petites équipes. Ça, c'est pas vrai du tout. Mais il y a de la qualité pour appliquer un plan de jeu. Et quand les scénarios du match est favorable, bon, ben, ça peut tenir le coup. Mais, ça reste quand même.
Mais t'es d'accord avec moi que quand on dit, par exemple, l'Espagne est grandement favorite sur le Portugal, quand on compare le 11 des deux équipes, il y a pas cet écart-là qu'on veut laisser croire, là. Quand on dit que la France est une grande favorite. Quand c'est on vrai. Dit que la France est une des grandes équipes favorites à ce mondial, tu sais, oui, je comprends le concept, tu sais, la France devrait être un favori.
Mais qui dit que la France est une grande équipe favorite de ce mondial? C'est pas vrai.
Ils sont dans le deuxième groupe. T'as les top 3-4, la France est juste derrière, donc c'est pas un favori, là. C'est un favori secondaire.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dès les premiers matchs, on voit que les favoris peuvent se faire bousculer et se faire sortir comme à chaque année des groupes parce que les écarts entre le niveau du jeu est pas si gros qu'on croit là.
Non, c'est vrai. C'est un bon point par rapport à ça.
Quand la préparation elle est bonne, ils ont préparé très 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 fort le premier match. Il faudra voir comment ils répondent au deuxième match. Est-ce que l'Islande joue pareil lorsque l'adversaire est moins fort, lorsqu'ils doivent faire le jeu, le Mexique oui, a très bien contre-attaqué contre l'Allemagne, mais c'est facile, c'est pas le bon terme. Mais lorsqu'on a une équipe en face qui joue genre à 45 mètres de ses buts et que finalement il y a que Boateng qui défend, même Hummels se retrouve quasiment comme un milieu défensif.
Ouais.
Comment le Mexique va réagir, voilà, contre d'autres adversaires où ils devront eux faire le jeu. C'est là aussi qu'il faudra voir faire un plan pour détruire. C'est quasiment plus simple que faire un plan pour construire. Donc, ces équipes-là aussi, j'aimerais les voir face à d'autres formes d'adversité. Donc, oui, tu as raison. Genre, comme l'écart s'est rétréci, hormis peut-être pour les nations africaines. on laissera Mathieu en parler avec Patrick Juard. Mais oui, l'écart s'est rétréci, mais en même temps, il y a des scénarios de match. Il faut pas les oublier.
Non, c'est vrai, c'est pas juste des scores et c'est pas juste des highlights. Il y a une histoire, il faut voir le match et voir ce qui est arrivé dans les détails. Donc, ça conclut ce spécial live
de podcast. Tu veux pas faire un petit mot sur l'arbitrage?
La prochaine fois. Là, on peut plus, on arrête à ce moment-là.
Parce que je pense que la VAR, que nous, on connaît en MLS et que maintenant le monde découvre, je pense que ça vaut la peine d'en parler.
On va en parler. Il y aura d'autres incidents, mais pour ce soir, on arrête. Donc, merci tout le monde qui est à côté pour le live, ce spécial double podcast Impact et Coupe du Monde. Ceux qui sont seulement sur le podcast, merci d'avoir écouté ce podcast 100% Coupe du Monde, débat Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi et Petite Nation. Sid Nilton, merci encore.
Merci.
Bientôt, merci tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine tout le monde. Bonne soirée et bonne semaine et bon mondial. Ciao tout le monde.